fondamentalement, on peut distinguer un peu deux types d'emplois. Ces emplois qui sont, Laurent les appelle basiques, d'autres les appellent sédentaires, ou mobiles, ou exposés, etc. La différence, c'est que... Et puis des emplois qui sont sédentaires, résidentiels, etc. La différence, c'est que quand vous en supprimez un emploi, un endroit, quand il est résidentiel, eh bien, il va être recréé. Quand votre boulanger, vous avez plus, votre boulanger vous plaît plus, il fait faillite, vous allez trouver un autre boulanger qui va, en principe, se recréer sur place. Quand vous avez fabriqué des joints spéciaux pour des machines spéciales qui sont vendues sur le marché mondial, si vous le supprimez, que vous êtes à Montluçon, par exemple, je sais pas, n'importe où, vous le supprimez à cet endroit, il n'y a aucune raison que ce soit supprimé à cet emploi. Donc c'est ça un peu, on peut dire aussi les emplois délocalisables et les emplois non délocalisables. Alors, le problème après, c'est le niveau d'équilibre qu'on a entre ça. Souvent, les élus vous disent, c'est formidable, ces emplois sont non délocalisables. Oui, mais enfin, le problème, c'est que si on n'a que des emplois non délocalisables, on n'a que des emplois qui sont plutôt résidentiels, qui sont souvent à plus faible productivité, qui génèrent des revenus moins élevés, et donc, quelque part, c'est un risque un peu d'appauvrissement général.
Si je peux me permettre.
On ne peut pas avoir une société qui fonctionne uniquement sur des emplois de proximité.
Non, mais si je peux, la question qui était posée n'était pas celle-là. Si je peux me permettre de la reformuler, parce que j'ai tiqué de la même manière, c'est le propos de Laurent Dadi, c'est de dire finalement les métropoles sont redistributives. Elles sont créatrices de richesses, mais elles sont redistributives. Et typiquement, l'exemple qu'il donnait dans le cas de Lyon, c'était de dire arrêtez de faire les grincheux à côté, puisqu'on constate que je ne sais quel pourcentage de l'emploi offert par le centre de Lyon est occupé par des territoires périphériques. Sauf que si les élus des territoires périphériques hurlent un peu, c'est que, effectivement, Lyon pourvoit des emplois à leurs résidents, mais pas forcément des ressources publiques qui leur permettront d'offrir les services à ces mêmes résidents. C'est ça la question.
Non, il y a deux questions tout à fait différentes. Il y a la redistribution générale, hein, par les revenus, qui est essentiellement d'ailleurs automatique. Le sous-titre du bouquin de Laurent, c'était la circulation invisible des recherches, des richesses. Quand vous avez c'est des automatismes, la sécurité sociale, etc. Bon, ça, c'est une chose. Et après, il y a les revenus des collectivités. C'est un tout autre sujet. C'est-à-dire qu'après, comment est-ce que les collectivités publiques, en particulier les collectivités locales, gèrent ces choses-là? Parce que là, effectivement, les uns peuvent. Et là, c'est un autre sujet. On peut trouver qu'effectivement, dans le système aujourd'hui, des intercos généralisés, c'est quand même ça aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Et à mon avis, il y a deux déficits majeurs. Il y a un déficit démocratique, mais on en reparlera, je pense, dans d'autres moments, puisque le président est élu de manière indirecte. Ça, je pense que c'est fondamentalement pas bien. Et puis, il y a très peu de redistribution, en réalité. Hein. Les mécanismes redistributifs entre collectivités sont quand même, regardez l'Île-de-France, sont en réalité extrêmement faibles, et dès qu'on essaie de les mettre en place, mais c'est deux choses différentes.
Oui, mais ça pose quand même la question de l'échelle. De l'échelle de la redistribution. Ce que décrit Laurent Dadi, c'est quand même des mécanismes redistributifs qui fonctionnent bien quand on prend une maille régionale pour mesurer les inégalités.
Oui.
Si on prend une autre maille, la question peut se poser.
C'est la question que j'aurais posée à Laurent s'il était resté, c'est que quand il parle de la redistribution à l'échelle nationale entre, disons, l'Île-de-France et le reste du pays, c'est une redistribution effectivement qui se fait à l'échelle nationale. Par des automatismes dont on vient de parler. La redistribution privée, la redistribution publique, voilà. Sur Lyon, la question que j'avais envie de lui poser, c'est est-ce que les résultats de l'étude auraient été les mêmes si tu avais pris une maille plus large correspondant au vrai territoire de fonctionnement de la métropole lyonnaise. C'est-à-dire qu'en réalité, il a pris un territoire qui est sous-ensemble de la métropole lyonnaise. S'il avait inclus le vrai bassin de vie et d'emploi, la question, le résultat aurait été différent. Parce qu'en fait, la redistribution dont il parle pour Lyon, c'est une redistribution essentiellement locale, régionale, hein, qui peut aller jusqu'à Saint-Étienne, jusqu'à la plaine de Blain, etc. Mais ce n'est pas une redistribution de type national. Voilà, les deux points que, par rapport à... Bon, c'est un peu dommage de discuter de ça sans que Laurent soit présent. Pardon.
Je peux vous dire sur cette question.
Alors,
Non, mais je voulais juste dire quand même, pour relancer la discussion, de petites choses. La première, c'est qu'on peut quand même discuter cette histoire de PIB régional hein, de deux façons. Vous savez que ça a été quand même... polémique entre les économistes là-dessus, parce que c'est très conventionnel, enfin il y a beaucoup de conventions dans la définition d'un PIB local, mais surtout il y a une question de fond, moi quand même, qui me tracasse un peu par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut vraiment affecter localement aujourd'hui la création de valeur ? Si je prends Renault, hein, je vais parler tout à l'heure, vous allez aller trouver dans le PIB de l'Île-de-France, vous allez trouver le Technocentre, dans le PIB de la... du Valenciennois, vous allez trouver, pardon, du Douaisis, vous allez trouver l'usine de Douai. Mais l'usine de Douai, elle n'existe pas sans Technocentre et réciproquement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quelque part, la production moderne, c'est un peu le cœur de la partie de ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que la production de valeur aujourd'hui, elle se fait en réseau. Et que c'est très difficile, c'est un peu artificiel de dire, voilà, la production de valeur francilienne, dans le PIB francilien, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez énormément de salaires franciliens, qui sont des salaires élevés, mais qui n'existeraient pas. Bon, les salaires du technocentre, hein, c'est le salaire d'ingénieur et de technicien, ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas les usines ailleurs en France, en Espagne ou en Roumanie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quelque part, un peu artificiel quand même de dire on a ce PIB qui est vraiment. La valeur est vraiment produite en Île-de-France. Ça reflète beaucoup, évidemment, dans le PIB, la part des salaires est très importante. Donc, quelque part, la surproductivité francilienne, le fait que ça représente 31% maintenant du PIB par rapport aux autres, ça veut dire aussi que ça concentre des salaires qui sont plus élevés. Alors, un économiste vraiment traditionnel, mainstream, classique, vous dira, ah, oui, mais si les salaires sont plus élevés, c'est parce que pour la productivité est plus élevée. Mais ça, on est dans la tautologie, on peut pas. Donc il y a quelque chose là un peu. Par contre, ce que je pense dans les travaux de Laurent, ce qu'on peut dire sur la métropolisation, le PIB c'est conventionnel, compter les emplois c'est pas conventionnel. Compter les emplois, on sait qu'il y a tant d'emplois, et là le phénomène de métropolisation, qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pensez à l'exemple du yaourt et tout ça, il y a un effet mécanique aujourd'hui qui fait qu'avec l'automatisation de la production directe, etc., les emplois remontent de fait vers les métropoles et vers les territoires alors, résidentiels. Et les deux étant intimement liés. Et la deuxième chose que je voulais dire, je m'arrête, c'est la comparaison internationale. On met beaucoup l'accent en France. Alors Laurent, il essaie d'atténuer ça en montrant qu'en fait, la situation n'est pas si dramatique et qu'il y a cette redistribution quand même très très importante. Ce n'est pas le cas, à mon avis, enfin, d'après les chiffres que j'ai, dans un certain nombre d'autres pays, dans les pays émergents, où il n'y a pas ces mécanismes de redistribution, et dans les pays, disons, de culture anglo-saxonne à l'américaine, où alors cette fois-ci, la divergence entre les métropoles et le reste du territoire est beaucoup plus profonde. On peut regarder, par exemple, les niveaux d'éducation, c'est un indicateur très intéressant. Si vous prenez les villes américaines, la divergence, bon, il y a 20 ou 30 ans, vous aviez un. Si on prend un indicateur, par exemple, de bachelor, de quelqu'un qui a un degré de l'enseignement supérieur, disons, niveau licence, quoi. Les gens qui rentrent pas plus que le bac, quoi. Vous aviez un niveau moyen sur les États-Unis, et puis selon qu'on était dans des métropoles plus modernes ou d'autres, ça variait de plus ou moins 10%. Aujourd'hui, ça varie de plus ou moins 40%. C'est-à-dire, il y a, entre San Francisco, vous avez 60% de diplômés du supérieur, etc. Et puis les autres villes américaines du Midwest, l'écart s'est élargi considérablement. D'ailleurs, si on regarde le vote Trump, il est la corrélation numéro un. C'est pas avec la température du mois de janvier, c'est avec le niveau d'éducation. Hein. C'est ça le critère le plus discriminant en réalité. Voilà. Et on n'a pas ça en France. J'ai fait le même exercice moi sur les villes françaises. Bon, il y a plus de diplômés à Paris, évidemment, que dans d'autres villes, mais même dans des villes très ouvrières comme Montbéliard ou Dunkerque, etc., on a non pas une diminution comme aux États-Unis, mais une augmentation moyenne du taux de diplômés. diplômés. Donc on a un territoire qui est, par rapport à d'autres territoires, on a ce geste de mondialisation, mais grâce à ce processus de redistribution, on a un territoire aujourd'hui qui est beaucoup, beaucoup moins fragmenté que celui d'autres pays. Voilà, ça c'est un point important, bien qu'il y ait des fractures.
Hein. Alors, je vais prendre
peut-être une seule, trois questions.
Anne-Sophie Boigalet.
Anne-Sophie Boigalet, agence d'urbanisme de Pau. Moi, je mettais en cause un petit peu le fait que Laurent Damzy prenne un indicateur et en tire une analyse sans regarder peut-être les biais de cet indicateur. Une évolution territoriale des revenus, moi, je vois trois biais. Le biais géographique, est-ce que c'est pertinent, comme vous le disiez, hein, vous l'avez très bien dit, de prendre un revenu dans un territoire alors que les revenus sont liés à des personnes plutôt. Donc évidemment, on a toujours des biais, mais à mon avis, le biais géographique n'est pas très pertinent. Je vois un biais chronologique, c'est-à-dire que grosso modo, il y a une redistribution, mais elle est forcément conjoncturelle. Et donc, grosso modo, on donne un poisson, on n'apprend pas à pêcher. Et donc, très vite, d'ailleurs il l'a dit à la fin, l'indicateur il n'est pas stable, il n'est pas fixe, puisque très vite après, ce tampon de la redistribution va s'arrêter et le tissu productif ne prendra pas le relais. Et puis je vois un troisième biais, qui est le biais purement mathématique, prendre un pourcentage sans parler des valeurs absolues quand effectivement les gens ont effectivement des revenus beaucoup plus faibles dans les territoires ruraux, en valeur absolue je parle. Donc évidemment les pourcentages biaisent beaucoup l'analyse de cette comparaison. Voilà, c'était les trois biais que je voyais.
Pas d'autres questions, je réponds tout de suite.
Oui, bonjour. Bernard Garin, j'habite juste à côté de Cesson-Sévigné, qui a été cité tout à l'heure par Laurent Davzy. Ils m'ont dit j'habite à Rennes, je suis breton. Et je vais faire une intervention, surtout sur votre présentation, M. Valtz, sur la société hyper-industrielle. Pour vous dire que je suis directeur d'hôpital et je partage totalement votre vision des choses. Je m'explique, il y a une cinquantaine d'années, un demi-siècle, la médecine, c'était de l'artisanat. Il n'y avait pas de normes, pas de qualité, pas de standards. Les médecins étaient formés de façon classique avec leurs humanités. Et puis petit à petit, on a remplacé le bistouri et la main du chirurgien par des robots. Maintenant, on opère grâce au numérique à distance, à des milliers de kilomètres de distance. Donc il y a bien une industrialisation de certaines activités humaines et pas simplement de la production manufacturière. Et j'avais cette semaine un rendez-vous avec le directeur de l'hôpital de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on était en train de se poser la question de savoir comment, en psychiatrie, on pouvait développer la télémédecine. Et donc, ça vient totalement illustrer ce que vous disiez sur que la question n'est pas la question des robots, mais essentiellement la question des réseaux. Et puis enfin, je terminerai sur une boutade à propos de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, pour illustrer, donc, pour caricaturer en fait ce que disait Laurent Davzy sur l'écart entre PIB par habitant et je suis là et revenu 6000 habitants sur Saint-Pierre-et-Miquelon, un hôpital public médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie complet pour 6000 habitants et à peu près 6000 euros par habitant de dépenses hospitalières. L'hôpital représente le tiers des emplois publics, donc 355, ça fait à peu près 1100 emplois publics, qui eux-mêmes représentent le tiers de l'emploi privé. Et il y a des revenus considérables sur Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont liés au transfert de la métropole, mais aussi de l'Europe, qui attribue effectivement ces ressources à partir effectivement de la production. Et comme Saint-Pierre-et-Miquelon ne produit plus rien depuis qu'il ne pêche plus, ben c'est vraiment la caricature de l'exemple de M. Davzy. On ne s'appelle pas de question, mais c'est simplement un témoignage.
Alors, donc moi, c'est une question plus politique. Frédéric Molin, Gérard-Tégaz. On a beaucoup entendu, après les élections américaines, finalement, une analyse assez simple qui consiste à dire, il y a d'un côté les gagnants de la mondialisation et de l'autre côté, les perdants. On peut comprendre, en entendant les deux interventions, que finalement, cette analyse, elle est loin d'être vraie, particulièrement en France. Pourtant, dans le débat politique et dans la campagne en cours, on entend encore ce sujet-là. On sait bien que la politique n'est pas faite systématiquement d'analyse objective, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un moteur qui alimente ce mythe-là. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui comment ce moteur est alimenté? Est-ce que c'est la fermeture de la sous-préfecture ou le débat sur est-ce qu'il faut réouvrir la ligne entre une ville moyenne et une ville moyenne, ou est-ce qu'il y a d'autres moteurs plus importants que vous auriez pu analyser?
Je vais répondre en fait ensemble un peu aux deux questions en repartant de un point qui est très important que vous avez soulevé, c'est la question des valeurs absolues et des taux relatifs. Et en particulier les pièges que peuvent représenter les cartes à cet égard. Par exemple, prendre plusieurs illustrations. On dit, bon, bien sûr, il y a une concentration métropolitaine très forte. Est-ce que pour autant les autres territoires métropolitains ne créent plus d'emplois, etc. David vous a raconté que c'était faux. Simplement, les autres grandeurs ne sont pas les mêmes. Et quand vous créez 10 emplois dans une commune de 200 personnes, évidemment, ça se voit beaucoup dans les statistiques. Donc il faut faire très attention quand on regarde les cartes. Ce n'est pas parce que mathématiquement, vous avez une très forte concentration moyenne sur les métropoles que le reste, forcément, diminue. On n'est pas dans un jeu à somme nulle de ce type-là. Deuxièmement, à l'inverse, je voudrais dire un mot des thèses de Christophe Guilly. Vous avez, je pense, beaucoup d'entre vous connaissent les livres de Christophe Guilly, qui sont aujourd'hui... Vous connaissez ça, oui? Non? Qui est-ce qui a...
Bon. Dites un mot, le teaser limitatif.
Christophe Guilly, donc, c'est un géographe qui a produit un certain nombre de livres ces dernières années, dont un qui s'appelle La France périphérique, hein, qui est peut-être le plus significatif. Il en a fait un autre.
Le plus qu'à la lecture, la fracture française est intéressante.
Enfin, oui, enfin, c'est ça. Ces bouquins sont de moins en moins intéressants au fur et à mesure qu'il est plus médiatisé. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est un peu ça le sujet. Ouais, bon, donc Guilly défend la thèse de dire, bon, au fond, on a maintenant une France gagnante, la France des métropoles, et puis on a les périphéries qui sont globalement perdantes. Et d'ailleurs, dans la France des métropoles, il va un cran plus loin, il dit, on s'est beaucoup occupé des quartiers difficiles, en gros des immigrés dans les quartiers des grandes villes, on ne s'est pas occupé des petits blancs, c'est son vocabulaire, qui sont dans les grandes périphéries, les campagnes, et qui sont en situation de détresse réelle. Vous voyez l'utilisation qui peut être faite d'ailleurs de cette thèse, dont il est conscient. Hein. Alors, par rapport à ça, moi j'ai deux réactions. Il a raison de soulever un certain nombre de problèmes. C'est vrai qu'il n'y a pas que de la pauvreté dans les grandes villes. Il y a aussi de la pauvreté dans les campagnes, beaucoup même. Hein. Et puis il y a des grandes périphéries où il y a des gens, voilà. Là où, par contre... il a totalement tort, mais c'est là que la machine médiatique, aussi la machine politique, c'est une idée très simple. Il peut l'exprimer en 3 minutes sur un plateau de télévision, alors que nous, quand on exprime des choses un peu plus nuancées, évidemment, on s'est jeté. C'est normal. Et cette idée qu'il y aurait deux France, une France des métropoles qui irait bien et une France de la périphérie qui irait mal, elle est quand même factuellement totalement fausse. Elle est totalement fausse parce que si on regarde où sont... les pauvres aujourd'hui majoritairement en France, hein, immigrés ou pas immigrés, c'est quand même dans les villes, majoritairement. Sauf que quand vous faites les cartes, c'est là que je rejoins votre affaire des taux et des valeurs absolues, quand vous faites les cartes, c'est vrai que sur un certain nombre de territoires, vous faites le pourcentage de gens qui ont des faibles revenus, vous allez voir de manière assez massive émerger des grands territoires périphériques. Alors que dans les grandes villes où les gens sont noyés avec des vous allez faire les moyennes avec les très hauts revenus, ben ça ne se verra pas. Et donc effectivement, il y sort un certain nombre de cartes où vous voyez que la pauvreté est forte en statistique dans des régions, on le sait bien d'ailleurs, notamment dans le Nord-Est, etc. Il a raison de soulever ça. Mais ça ne veut pas dire qu'en absolu, les pauvres sont majoritairement là. C'est là qu'il y a un piège de la carte et quand tu passes... Quand on ne passe pas intelligemment, enfin correctement, du taux relatif au taux absolu. De même, il y a ces fameuses cartes. Non, de même, il y a ces fameuses cartes sur les votes extrêmes, hein, Front National et puis aussi à l'extrême gauche. Vous peut-être vu ces cartes, c'est vrai que les taux sont de plus en plus élevés quand on s'éloigne du cœur des villes. Mais là aussi, entre le taux et le nombre absolu, c'est deux choses tout à fait différentes. Parce que si vous avez 15% d'électeurs du Front National sur un territoire qui fait 10 millions d'habitants, ça fait beaucoup, beaucoup plus de gens que 30% sur un territoire qui fait 100 000 habitants. Donc ça ne veut pas dire que l'information n'est pas intéressante de voir qu'en effet, on a un taux plus élevé. Mais de là à dire que tous les électeurs du Front National ou du Front de Gauche ou je ne sais pas quoi sont tous dans les campagnes profondes, c'est totalement faux. Voilà. Donc ça, je pense que c'est des points qu'il faut faire, très, très, très attention à ça. Et du coup, parce qu'on a, après un usage des cartes, un usage des simplifications qui est très, très abusif.
Christophe Girard, du CGET.
C'est vraiment la dernière question parce qu'après le consultant Thierry a interrompu.
Je pense qu'il souhaite.
Je pense qu'on ait répondu à la première question. Dans la mesure où la proposition de Laurent Dazy et de Gali Talandier de proposer un système local de circulation de l'argent dans la production de richesses au travers des salaires, qu'ils soient directs ou différés, n'est pas celui de la redistribution et surtout pas au regard des besoins et notamment des aménités et qu'à se focaliser uniquement sur la question de salaire direct ou différé, on ne parle pas de redistribution de la richesse au niveau des collectivités et au niveau de toutes les infrastructures, ce qui était le point de la première question qui me semble absolument essentiel.
Oui, il faut absolument distinguer ce qui est de l'ordre de redistribution par les institutions. Quand Laurent parle de redistribution, eh bien c'est la redistribution directe, c'est-à-dire c'est ce que vous avez sur votre feuille de paye, le remboursement de sécurité sociale, votre retraite, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait que les budgets publics et les budgets des collectivités sont, eux redistributifs. Juste un mot sur Trump, puisque la question, je crois, a été posée. C'est très intéressant, je veux que ça vous intéresse, c'est en ligne sur le site de Métis. Hein. Métis, c'est des gens qui réfléchissent sur l'avenir du. J'ai fait un petit papier là récemment où j'ai essayé de comparer la situation Brexit, Trump et puis la France. Quand on prend les cartes là aussi, c'est absolument spectaculaire. J'en avais eu tout à l'heure, mais pas trop, marche plus. Le vote. Le vote, il y avait des cartes d'ailleurs qui ont été publiées dans le New York Times, on avait l'archipel du vote Clinton, hein, les villes, en discontinu, mais toutes les villes, massivement quand même, hein, les grandes villes de la côte Est et de la côte Est en particulier, et puis le vote Trump, qui est un vote plus continental, avec les pointes dans le. Dans le Midwest, dans les régions anciennement rurales, anciennement industrielles, des Appalaches, etc. Bon. Maintenant, quand on regarde, alors. C'est sûr, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Mais quand on analyse un peu plus finement, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Que les gens qui ont les gens qui gagnent moins d'argent, on dit Trump, c'était un vote populiste. Quand on classe par niveau de revenu, les gens qui ont gagné moins, qui gagnent moins, ont continué à voter massivement démocrate. Et ceux qui ont voté Trump, c'est ceux qui gagnent les classes moyennes. Et puis les classes aisées. Trump, il a été élu par les riches américains. D'ailleurs, il l'a compris et il le rend bien. Vous voyez, c'est pas juste les ouvriers du Midwest qui ont voté. Et le vote, l'autre facteur, deux autres facteurs clés du vote, qui, dans la géographie est compliquée, juste je termine la phrase, c'est la couleur, hein, la race. C'est les blancs qui ont voté massivement pour Trump. Les blacks n'ont pas voté. Les blacks et les latinos ont voté Clinton. Ça, c'est déterminant. Et puis, le critère numéro un, c'est le niveau d'éducation, qui là aussi est lié à la géographie, mais pas de manière aussi évidente. Voilà, on pourrait parler du Brexit, mais on n'en